France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Je voudrais vous entretenir aujourd'hui d'une question qui touche à la fois la psychanalyse et l'éducation. Cette question est la suivante. Peut-on responsabiliser sans culpabiliser? Croyez-moi, si j'avais une réponse simple, je n'hésiterais pas à vous la donner. Et j'ai pas non plus de mode d'emploi, au cas où vous vous diriez que rendre un enfant responsable sans le culpabiliser serait une bonne idée. Je vais quand même tenter de vous montrer en quoi la psychanalyse peut servir à comprendre ce qui se joue, sinon à trouver des solutions. À l'issue de cette réflexion, je répondrai aux questions des auditeurs qui ont déjà écouté le podcast, puis laissé leurs commentaires sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur notre répondeur au 01 56 40 64 04.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
La souffrance que peut causer la culpabilité est un motif fréquent de consultation à tout âge. Et l'un des buts d'une cure, bien que ce ne soit pas le seul, est précisément de passer avec douceur et précaution de « ce dont je m'accuse, c'est la culpabilité » à « ce dont je peux répondre, c'est la responsabilité ». Pourtant, si vous connaissez des psychanalystes ou des personnes qui ont fait une analyse, vous aurez constaté qu'ils ne sont pas forcément moins coupables ni plus responsables que les autres. Mais d'une part, comme on va le voir, la culpabilité a des côtés positifs, et de l'autre, ils ont la prétention d'avoir fait le choix d'agir dans telle ou telle direction, même catastrophique, mais en accord avec leurs désirs. Jacques Lacan a passé tout un séminaire pour en arriver à l'énoncé suivant, je cite. « Je propose que la seule chose dont on puisse être coupable, au moins dans une perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. » Fin de citation. Il me faudrait au moins une émission pour vous faire saisir la subtilité de cette phrase, plus galvaudée que comprise. Mais dans une interview récente, Fabrice Lucchini l'illustre parfaitement avec l'humour qu'on lui connaît.
Fabrice Lucchini, donc je voudrais très simplement vous poser, que pensez-vous de la psychanalyse? Comme dirait Woody Allen, ça fait 41 ans, ça va un peu mieux. Alors, je vais vous répondre sérieusement.
Il dit, la psychanalyse m'a quand même apporté que c'est moi le patron de la décision. Je suis hystérique si je veux.
Je suis pas mauvais dans ce domaine-là.
Serait-il envisageable que l'éducation puisse faire mieux qu'une psychanalyse pour ne pas vous sentir condamné à la culpabilité à vie? Vous connaissez peut-être cette boutade de Freud qui a écrit qu'il y avait trois métiers impossibles, gouverner, éduquer et psychanalyser. J'avais oublié que c'est Freud lui-même qui parlait de boutade, ce qui signifie bien sûr que c'était sérieux. Oublié aussi que cette boutade ne venait pas de lui, oublié enfin le contexte dans lequel il en avait parlé. La première fois, c'est dans la préface d'un livre d'Auguste Eichhorn, « Jeunesse à l'abandon », paru en 1925. Cet auteur a été directeur à Vienne de deux internats accueillant de jeunes orphelins, des cas sociaux et des délinquants. Pédagogue expérimenté, il commande son travail éducatif mené à la lumière des travaux de Freud. C'est un véritable pionnier dans l'introduction des apports de la psychanalyse dans l'éducation spécialisée. Voilà ce qu'écrit Freud dans sa préface, je cite. « De toutes les utilisations de la psychanalyse, aucune n'a rencontré autant d'intérêt, éveillé autant d'espoir et partant attiré autant de collaborateurs sérieux que son application à la théorie et à la pratique de l'éducation des enfants. » Et c'est là qu'il ajoute « Personnellement, je n'ai eu qu'une participation très modeste à cette application de la psychanalyse. Il y a très longtemps déjà, j'ai fait mien le mot plaisant qui veut qu'il y ait trois métiers impossibles, éduquer, guérir, gouverner. J'avais déjà largement de quoi faire avec le second des trois, mais je ne méconnais pas pour autant la valeur sociale du travail de mes amis éducateurs. » Fin de citation. Depuis Freud, et surtout sa fille Anna, contemporaine entre autres de Mélanie Klein, les rapports entre éducation et psychanalyse, leurs limites respectives, leur application, ne cesseront d'être débattus, mais personne ne peut dire que la psychanalyse n'a pas eu d'incidence sur l'éducation. Je pense pour le meilleur, même si d'autres prétendent que ce serait pour le pire. Encore faudrait-il que ses censeurs le démontrent.
Pourquoi tu viens à l'école ?
Parce que la maman qui veut toujours que j'aille à l'école.
Et toi, tu voudrais pas ?
Si.
Ah bon ? Mais pourquoi tu viens à l'école ?
Pour faire mon travail.
Et qu'est-ce que c'est ? Quel travail ? Tu apprends quoi à l'école ? Tu veux faire des coloriages ?
Non.
Qu'est-ce que tu apprends aussi ? C'est important le coloriage. Et après, qu'est-ce
le
qu'il y a ?
Le travail.
Qu'est-ce que c'est le travail ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Par exemple, ce matin, qu'est-ce que tu as fait ?
Des boucles.
Oui. Alors tu apprends les boucles.
À quoi ? Oui.
À quoi ? À écrire.
À faire des 6.
Ah, et les 6, c'est pour apprendre quoi ? Le calcul ?
Oui.
Pour savoir ? Compter ?
Oui.
Hein ?
C'est de dire compter jusqu'à 6.
Jusqu'à 6.
Après 5, il y a 6.
Et après 6 ?
Après 6, il y a 7.
Mais on l'a pas encore lu.
Puis hein ? Après 7, il y a 6. Ah, après 7, il y a 8.
Il y a 8.
Alors, de quoi se sent-on coupable ? La liste est infinie. On peut se sentir coupable envers soi-même, de procrastiner, de trop manger, de ne pas tenir ses bonnes résolutions. Au pire, coupable de vivre ou coupable de mourir. On peut se sentir coupable envers les autres, de ne pas savoir dire non, d'en faire trop ou pas assez, de ne pas s'occuper davantage de ses parents ou de ses enfants. On peut même se sentir coupable d'un scénario imaginaire n'ayant aucune incidence dans la réalité, les mauvaises pensées comme on dit. On peut fauter pour se sentir coupable ou encore se sentir coupable sans savoir de quoi. La culpabilité est une ressource inépuisable pour les romanciers. Pensez à Joseph K. dans Le procès de Kafka, coupable de rien, arrêté pour des raisons obscures et présenté devant la justice. Sans savoir de quoi on l'accuse, il va se débattre pour prouver son innocence, non sans finir lui-même par être convaincu du bien fondé de son procès. Pensez aussi à Dostoïevski et aux frères Karamazov, que j'ai pas eu le temps de relire, mais je me souviens de cette phrase terrible « Chacun de nous est coupable devant tous et pour tout, et moi plus que tous les autres ». Dit Freud de la culpabilité. Pour Freud, elle est la résultante d'un combat entre le sexe, pris dans le sens de la libido ou d'énergie sous-tendant les instincts sexuels, et la loi. La culpabilité est imposée à l'homme par le refoulement du désir, cause de souffrance. À la fin d'une analyse, l'individu n'est plus coupable ou moins coupable de ce qu'il n'a pas fait, mais il peut continuer de souffrir de la contradiction entre ses désirs enfin reconnus et la contrainte sociale ou la loi. Des années d'analyse pour en arriver là, pourriez-vous penser ? Ben c'est déjà pas mal. Et j'en rajoute en vous disant que Freud a également écrit que l'analyse sert à échanger la misère hystérique contre le malheur banal. Ça étend considérablement le champ des réussites attribuées à la psychanalyse, mais elle n'en reste pas moins aussi modeste qu'essentielle. Mais à quoi sert la culpabilité ? On peut considérer qu'elle est civilisatrice, dans la mesure où sa fonction est de refouler les désirs qui ne doivent pas se réaliser. Combien d'interdits sont enfreints par des hommes et des femmes qui ressentent ce sentiment de culpabilité ? Alors qu'est-ce que ce serait s'il n'existait pas ? Et les personnes dépourvues de toute culpabilité, quand ce n'est pas qu'une apparence, peuvent être des dangers publics pour elles-mêmes ou pour la société, par absence de frein à réaliser des désirs hors la loi, notamment le meurtre. Toutes les transgressions sont alors possibles, surtout si ces coupables refusent d'être responsables de leurs actes au nom de leur fidélité à ce qu'ils estiment être leur devoir, qu'ils soient religieux ou idéologiques. Mais on peut dire aussi que la culpabilité est nocive pour l'individu quand elle devient inhibitrice ou torturante. Ces deux propositions peuvent cohabiter chez un même individu selon les circonstances déclenchantes. Et pour le comprendre, il faut que je vous parle du surmoi, car c'est là que prend naissance le sentiment de culpabilité dès l'enfance.
L'inconscient, avec Caroline Eliacheff sur France Inter.
Qu'est-ce que le surmoi ? Freud est le premier à s'être penché sur l'enfance pour comprendre la formation du psychisme. Je croyais qu'il n'avait jamais reçu d'enfant en psychanalyse. Bien sûr, le petit Hans fait partie des 5 psychanalyses, mais c'est son père qui venait rapporter à Freud ses observations concernant le développement de son fils. Grâce au psychanalyste Jacques Seda, j'ai appris que pendant 10 ans, de 1886 à 1896, et à raison de 3 jours par semaine, Freud a été responsable du service des enfants malades à l'Institut public de Vienne, dirigé par le pédiatre Max Kassovitz. Nul doute que cette fonction a alimenté ses réflexions sur les théories sexuelles infantiles et la constitution de l'appareil psychique. Dans sa seconde théorie de l'appareil psychique, Freud a distingué le « ça », qui est inconscient, le « moi », sorte d'instance médiatrice dépendant à la fois des revendications du « ça », des impératifs du « surmoi » et des exigences de la réalité. Le surmoi, lui, se constitue par l'intériorisation des exigences et des interdits parentaux, autrement dit par l'éducation. Son rôle peut se comparer à celui d'un juge ou d'un censeur du moi. C'est cette petite voix qui nous guide, nous freine, nous pilote, en nous rappelant ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire. Bref, si vous admettez que vous avez un inconscient, vous savez maintenant que vous avez un surmoi qui en est une composante, pas complètement inconsciente d'ailleurs. Et si vous acceptez l'idée que la culpabilité a des effets positifs et négatifs, c'est parce que le surmoi n'est pas toujours un juge impartial. Le surmoi est protecteur quand il interdit non pas le désir sexuel, qui vient du ça, mais par exemple sa jouissance incestueuse, qui elle doit rester interdite. Mais le désir se trouve aiguillonné par l'interdit. Que faire ? C'est sous l'effet du surmoi que ces pulsions agressives ou hors la loi peuvent se transformer en élan positif, socialement acceptable. Voilà comment certains deviennent chirurgiens, bouchers ou vétérinaires plutôt que criminels. Car au-delà des interdictions, le surmoi nous impose un modèle à atteindre, un idéal. Ça peut être un projet de vie ou une ambition, et en vous stimulant, votre surmoi est là pour vous soutenir. Problème, si vous n'atteignez pas l'objectif, le surmoi vous le reproche. En revanche, s'il joue bien son rôle, ce même surmoi vous met à l'abri des représailles que les transgressions entraîneraient. Mais le surmoi peut aussi être tyrannique. C'est le cas lorsque ses exigences excèdent le respect de la loi ou des interdits. C'est ainsi que, par crainte de céder aux pulsions du ça, le surmoi vous impose une foule d'interdits qui n'ont pas lieu d'être. Mauvais calcul, car plus on se soumet, plus il en demande. C'est ainsi que des inhibitions très fortes peuvent se mettre en place, comme l'incapacité de s'engager, le refus des responsabilités justement. L'éducation ayant changé, on voit moins aujourd'hui qu'autrefois des enfants totalement inhibés qui s'empêchent de faire non seulement ce qui leur a été interdit, mais bien davantage. Ils obéissaient non seulement à leurs éducateurs, mais aussi à leur surmoi. Le surmoi dépendant en partie du contexte social, on peut constater qu'il est beaucoup moins exigeant qu'autrefois. On peut néanmoins encore rencontrer certaines personnes qui souhaitent consciemment s'engager affectivement mais n'y arrivent pas. Elles ont parfaitement intégré l'interdit de l'inceste qui se limite à quelques personnes, les parents et la fratrie, mais leur surmoi excède cet interdit en les empêchant de se lier à des personnes parfaitement autorisées. Les enfants peuvent aussi développer un sentiment de culpabilité inconsciente lorsque des interdits, comme l'interdit de l'inceste, mais d'autres également, ne sont pas respectés ou présentés de façon suffisamment ambiguë pour pouvoir espérer y échapper.
«
En janvier 1948, dans le cadre d'une journée organisée par la revue Psyché à Royaumont sur le thème de la culpabilité, Françoise Dolto a fait une communication intitulée « Les sensations synesthésiques d'aise ou de malaise, origine des sentiments de culpabilité ». Cette communication est assez extraordinaire, car Françoise Dolto décèle les premières manifestations du sentiment de culpabilité par l'observation clinique des enfants, les siens et ceux qu'elle a suivis professionnellement, et ce dès la naissance. Qu'est-ce qui peut culpabiliser un bébé ? Vous savez bien qu'un enfant sain crie par nécessité, besoin, désir, joie, parfois par peine, mais sans crispation. Crier est meilleur pour lui que de ne pas crier, même si on n'arrive pas à comprendre ce que ça signifie. Chercher à inhiber les cris par la coercition, la brutalité des gestes, nos propres cris, c'est, écrit Françoise Dolto, condamner dans son origine l'ensemble de l'expression de la libido telle qu'elle aura à se déployer à travers les stades ultérieurs.
Mais c'est plus fort que pire. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un cochon pareil?
Non, c'est pas fait exprès.
Plus tard, je pense aux parents qui, pour se faire obéir, pour sanctionner une bêtise, pour formuler un interdit, se mettent à hurler, voire à taper. Le son perçant de la voix parentale sidère l'enfant, qui n'entend que des cris et annule toute parole qui pourrait être structurante et éducative. L'enfant se sent coupable d'avoir déclenché cet orage, mais ne sait plus quelle en est la cause, ni ce qu'on lui reproche. Il y a aussi des enfants à qui on s'adresse uniquement sous forme d'interdiction, comme « attention, tu vas te faire mal, tais-toi ».
« Mets-toi debout, dégoûtant !»«
Arrête, ne fais pas ça !»«
Bah alors fais pas cette tête, allez viens !»«
Attends, ne touche pas, ne bouge pas !»«
Assieds-toi !»«
Reste tranquille !» Comme le dit quelque part Françoise Dolto, c'est hypnotisant de ne pas manifester qu'on vit.
« C'est pas possible !»
Lors de la venue d'un nouvel enfant dans la fratrie, la répression des manifestations de jalousie sur le mode « c'est mal » ou « tu es méchant » rend l'enfant coupable de ce qu'il ressent, mais pas moins jaloux. N'oublions jamais que les enfants croient que les adultes, et les parents en particulier, ont droit de vie ou de mort, et surtout le droit de les abandonner. On peut faire mieux, ce qui ne signifie nullement laisser tout faire, bien au contraire, comme vous allez l'entendre. Mais sur la culpabilité, écoutez encore Françoise Dolto, dont vous apprécierez certainement la haute idée qu'elle se fait des capacités infantiles. Je la cite. Grâce à un bain de paroles toujours secourable, en rapport avec les épreuves physiques, et venant ainsi soutenir ses initiatives motrices, l'enfant échappe à des sentiments inconscients précoces de culpabilité qui, s'ils sont présents, ne peuvent que le dérythmer et entraver l'accès euphorique à la connaissance de son identité, aux caractéristiques naturelles de son sexe, à la maîtrise autonome de son dire, de son agir, à l'exercice de son intelligence observatrice, discriminatrice, créatrice, à l'exercice de son imagination inventive et de son autonomie responsable. Ne croyez pas que ce soit un plaidoyer pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation bienveillante, j'y reviendrai. Est-ce que les parents cessent d'être culpabilisants quand les enfants deviennent adultes ? Malheureusement, non. Françoise Dolto, qui s'appelait à l'époque dont je parle Françoise Marette, en a su quelque chose, elle qui, à 24 ans, a commencé une psychanalyse totalement inhibée par son sentiment de culpabilité, l'empêchant à l'époque tout simplement de vivre, alors qu'elle avait acquis de hautes luttes de pouvoir commencer ses études de médecine. Il faut dire que sa mère ne prenait pas de gants. Rendue folle par la mort de sa fille aînée Jacqueline à l'âge de 18 ans, alors que Françoise avait 12 ans, elle lui reprochait d'être encore vivante, l'injuriait, attaquait sans relâche son destin de femme. Loin de se révolter et pleine de compassion, Françoise s'obligeait à subir sa mère jusqu'à ce que son psychanalyste Laforgue lui dise « mais vous ne vous rendez pas compte que vous exacerbez la névrose de votre mère en ne lui répondant pas et en subissant tout ce qu'elle vous impose. Rien n'est plus mauvais pour les obsessionnels que de voir l'autre se soumettre à leurs obsessions. Fin de citation. Voilà une interprétation qui peut servir à d'autres. L'humour peut aussi aider à prendre un peu de distance. C'est l'histoire d'une mère, juive bien sûr, qui offre deux cravates à son fils pour son anniversaire, une rouge et une bleue. Le samedi suivant, lorsqu'il arrive avec la rouge, la mère lui dit d'un ton plaintif que je ne vais pas imiter « Je savais bien que tu n'aimais pas la bleue ». Être capable d'en rire, c'est un bon début pour arriver à ôter aux parents ou aux conjoints le pouvoir de culpabiliser et même celui d'exaspérer.
L'inconscient, avec Caroline Eliachef, sur France Inter.
Le slogan « responsable mais pas coupable » pourrait donc signer la fin d'une psychanalyse ou d'une éducation non culpabilisante. Les plus âgés se souviennent peut-être qu'il a fait scandale en 1991, lorsque Georgina Dufoy se l'est attribuée, dans le contexte de l'affaire du sang contaminé.
Cette responsabilité, elle est très directement sur mes épaules aujourd'hui. Donc je me sens tout à fait responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable.
À l'époque, elle était ministre des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, désignée par là même à endosser des responsabilités. Quelques années plus tard, la justice lui a donné entièrement raison. Les personnes à l'origine du dommage dont elle ne faisait pas partie ont été considérées comme responsables, et à ce titre, les victimes ont été indemnisées, mais pas coupables, au sens où il n'y a pas eu reconnaissance d'une faute. Vous me direz qu'il est difficile de comparer un enfant à une ministre, soit. Ne suis-je pas abominablement rétrograde en vous proposant l'idée qu'il devrait être responsable de lui-même, des conséquences de ses actes et de ses dires sur l'entourage, alors que vous ne pensez qu'à son bonheur via son épanouissement, son autonomie, voire encore plus progressiste, son autodétermination? Alors je vais être encore plus rétrograde. Je ne voulais pas annoncer pour ne pas que vous vous sentiez rebuté, mais je vais vous parler de l'autorité, qui pourtant n'est pas un concept analytique. Difficile d'en faire l'impasse, car l'autorité a un lien direct avec la responsabilité. Quel est ce lien? Il a été formulé au mieux par la philosophe Hannah Arendt lorsqu'elle écrivait, je cite, « Dans un monde où l'autorité a été abolie par les adultes, cela ne peut signifier qu'une chose, que les adultes refusent d'assumer la responsabilité du monde dans lequel ils ont placé leur enfant. » Fin de citation. On comprend pourquoi les hommes et les femmes politiques ne démissionnent plus que sous une forte contrainte, alors qu'ils le faisaient beaucoup plus facilement dans un passé pas si ancien. N'ont-ils pas déjà démissionné à leur poste en n'assumant pas leurs responsabilités? Mais qu'est-ce que l'autorité? S'il faut vraiment définir l'autorité, nous dit Hannah Arendt, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par argument. Fin de citation. Ça, c'est ce qu'elle n'est pas. Mais y a-t-il une définition positive de l'autorité? Hannah Arendt écrit « L'autorité implique une obéissance dans laquelle les hommes gardent leur liberté. » Fin de citation. Je pense que ça veut dire qu'il faut consentir à obéir, ce qui pointe la différence entre autorité et tyrannie. Le tyran est celui qui exerce son pouvoir conformément à sa volonté et à son intérêt. Par parenthèse, il y a encore bien trop de tyrans, qu'ils gouvernent un pays ou qu'ils soient des tyrans domestiques. Alors que la source de l'autorité est toujours une force extérieure et supérieure au pouvoir de celui qui l'exerce. On ne peut exercer l'autorité que si l'on s'est soi-même soumis à l'autorité, c'est-à-dire à la loi. Dans l'éducation, Freud a reconnu, sans trop s'y étendre, que je cite, « l'autorité au sens le plus large a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle ». Fin de citation. Or, ce n'est plus le cas. Il paraît absurde et même nocif de comparer l'état d'enfance à celui des minorités opprimées, ayant à s'affranchir du joug de l'oppresseur. D'abord parce que l'état d'enfance est transitoire, ce qui le distingue fondamentalement de l'état des minorités opprimées. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il existe des parents qui abusent de leur pouvoir et se comportent en véritables oppresseurs que l'on doit assimiler l'état de parent en général à celui des parents délinquants reconnus comme tels par la justice. Vouloir se débarrasser des bienfaits protecteurs de l'autorité parentale en n'assumant pas ses responsabilités s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pourtant ce à quoi nous assistons souvent. Les jeunes sont-ils plus épanouis? Ça reste à voir. Ce qui paraît le plus contesté dans la notion d'autorité, c'est qu'elle implique une notion hiérarchique, où les places sont fixées d'avance et dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité. Dans une famille, ces places sont les places générationnelles, dont on peut observer à quel point elles sont parfois mises à mal. En famille, avoir de l'autorité consiste à occuper sa place, toute sa place, rien que sa place, et implique de formuler et de faire respecter les interdits au bon moment et de façon équitable, ce qui n'est pas toujours facile car les parents sont fortement impliqués affectivement. Est-il vrai que l'enfant se soumettrait à l'autorité seulement par crainte de ne plus être aimé? Aujourd'hui, ce sont bien davantage les parents que les enfants qui craignent de ne plus être aimés et ça réfrène considérablement leur velléité de déplaire qu'entraîne tout exercice de l'autorité qui impose à bon escient des limites. Faut-il considérer l'obéissance comme une soumission? Le pédopsychiatre Daniel Marcelli a publié en 2009 un livre que je conseille souvent aux parents. Son titre, « Il est permis d'obéir, l'obéissance n'est pas la soumission ». Il montre justement qu'un enfant n'obéit pas seulement pour ne pas perdre l'amour de ses parents, mais parce qu'il y a à y gagner en compréhension du monde. Et si plus tard il veut désobéir, pourquoi pas? Mais encore faut-il pour cela qu'il ait connu l'obéissance. Quand on voit combien les enfants aspirent à ce qu'on leur impose, sans violence mais avec fermeté, des limites qui vont les calmer et leur permettre de grandir, on se demande bien pourquoi les parents acceptent de se faire culpabiliser par les tenants d'éducation positive, dite aussi bienveillante. Personne mieux que la psychologue Caroline Goldman n'a démonté cette idéologie qui, elle, confond allègrement le besoin d'amour avec le besoin de limites éducatives, dénie les pulsions agressives autant des enfants que celles des parents, ainsi que la différence des générations, et considère que mettre un enfant au coin ou dans sa chambre est une violence éducative. Ça me rappelle Bruno Bettelheim. Il racontait que lorsqu'il donnait des conférences destinées aux parents à Chicago, à la fin, il y avait toujours une femme qui demandait « Et l'amour ?» À quoi il répondait « L'amour ne suffit pas ». Ne jamais utiliser l'autorité, c'est-à-dire la référence à une loi commune pour tous, et surtout commune aux parents et aux enfants, renvoie l'enfant à une responsabilité solitaire qui ne tient pas compte de l'autre. Sans nier que l'hyperactivité existe, on préfère aujourd'hui étendre ce diagnostic à tout enfant agité, pour ne pas dire insupportable, plutôt que d'explorer finement de quelle manière il est éduqué. Y aurait-il malgré tout un gain, à savoir l'absence de culpabilité, à ne pas poser de limites? Rien n'est moins sûr. Du côté des parents, c'est eux qui se sentent coupables, allant jusqu'à s'excuser ou finir par être violents face à un enfant tyrannique qui les pousse à bout. Du côté des enfants, comment intérioriser des limites s'il n'y en a pas? Est-ce qu'on ne leur permet pas de passer d'une forme de culpabilité parfois excessive à un rejet d'assumer toute responsabilité à l'image des adultes? Le psychanalyste Charles Mellman diagnostique que nous sommes passés d'une économie du désir, génératrice de névrose, à une économie de la jouissance, visant à une satisfaction immédiate et sans entrave de tout désir, génératrice au minimum d'angoisse, mais n'excluant pas la culpabilité. Est-ce finalement un idéal de vouloir responsabiliser un enfant sans le culpabiliser, mais qui, comme tout idéal, serait inatteignable? Peut-être bien, après tout. Je laisse à Albert Camus le mot de la fin. L'homme n'est pas entièrement coupable. Il n'a pas commencé l'histoire, ni tout à fait innocent, puisqu'il la continue. » Fin de citation. À vous de continuer à écrire l'histoire comme vous pouvez.
France Inter présente son premier podcast interactif. L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Restez à l'écoute. Juste après le disque, je répondrai aux questions que m'ont adressées celles et ceux d'entre vous qui ont déjà écouté cet épisode en podcast. Sachez que nos prochains sujets sont déjà disponibles et que vous pouvez nous laisser vos questions avant la diffusion à l'antenne, soit par note vocale sur notre page L'inconscient sur franceinter.fr ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Et avant nos échanges, nous écoutons d'auteurs Be on your way. C'est à vous maintenant de poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour. Bonjour, je m'appelle Magali, je suis enseignante avec des enfants en difficulté et j'aurais une question. Voilà, j'ai l'impression que certains enfants culpabilisent de grandir. De nombreux enfants me disent qu'ils ne veulent pas grandir car s'ils grandissent, ils ont peur que leurs parents meurent. Voilà, et du coup, j'aurais voulu savoir comment je pourrais aider ces enfants, quels mots je pouvais leur dire pour les aider un petit peu à grandir. Merci.
Merci Magali pour cette question. Je vois que les enfants dont vous vous occupez n'ont pas peur d'aborder cette question de la mort avec vous, ce qui est déjà, je pense, un bon point pour vous. Penser que s'ils grandissent, leurs parents vont mourir, ça relève un petit peu de la pensée magique. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont, je ne veux pas généraliser, mais peut-être qu'ils ont l'idée que s'ils pensent que leurs parents pourraient mourir, ça va arriver. C'est généralement, et bien que je vienne de vous dire qu'il ne faut pas généraliser, mais quand même, des enfants qui ont peur que leurs parents meurent sont souvent des enfants qui ont eu la pensée qu'ils aimeraient bien, dans un grand moment de colère, que leurs parents soient morts. Voilà, ça c'est une première chose. Je ne pense pas du tout que ça soit à leur dire, mais c'est pour que vous y compreniez quelque chose. Une autre chose, c'est que, évidemment, les enfants, à partir d'un certain âge, découvrent que la mort existe et que, leurs parents et eux-mêmes, un jour vont mourir. Ça, c'est une certitude. L'incertitude vient de ce qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et probablement, tant mieux. Françoise Dolto disait on meurt quand on a fini de vivre. Ça a l'air d'être une tautologie, mais les enfants saisissent ça très bien. On meurt quand on a fini de vivre, quel que soit l'âge auquel on a fini de vivre. Et moi, j'ajoute généralement, mais avant de mourir, il faut vivre. Et je crois que c'est ça qu'il faut dire aux enfants. Hein. Avant de mourir, eh bien, il faut vivre.
Bonjour, je m'appelle Gilles. Alors voici ma question. La responsabilité contient-elle les germes de la culpabilité? Je m'explique. Lorsqu'on endosse une responsabilité, n'est-il pas sous-entendu que l'échec n'est pas une option? Parce que l'échec, c'est faillir à son devoir, faillir à sa mission, et par défaut, on devient fautif. Qu'en pensez-vous? Je vous remercie.
Bonjour Gilles. Vous avez une vision particulière, j'ai envie de dire, de la responsabilité. Personnellement, je n'envisage pas la responsabilité comme une performance. C'est plutôt une attitude. Se sentir responsable est plutôt une attitude qui n'implique pas obligatoirement la réussite, n'implique pas obligatoirement de réussir quelque chose. Assumer ses responsabilités implique quand même d'être en relation avec d'autres qui vont évidemment avoir une influence sur la façon dont vous pourrez exercer au mieux ou pas votre responsabilité. Vous pouvez vous sentir coupable de ne pas avoir endossé votre responsabilité, mais si vous avez fait votre possible, je pense que la culpabilité serait de trop. Alors, évidemment, je parle de façon un petit peu générale, alors qu'il y a mille manières de considérer que l'on endosse ses responsabilités. Pour un enfant, ça n'est pas tout à fait la même chose que pour un ministre, j'en ai un peu parlé dans l'émission. Pour un enfant, endosser sa responsabilité, c'est se sentir responsable déjà de soi-même, de son corps, de ne pas se faire mal, de se sentir responsable de ce que l'on dit et de ce que ça peut avoir comme impact sur les autres. La responsabilité d'un ministre, elle est devant ses pairs, elle est devant les Français, c'est un petit peu différent. Et ne pas être arrivé à ce que l'on souhaitait en ayant endossé ses responsabilités, ça peut tenir à de multiples facteurs. Si on a fait en toute conscience et en pouvant se regarder dans la glace, si on a fait tout ce qu'on pouvait, je crois que la culpabilité à ce moment-là serait de trop.
Peut-on responsabiliser sans culpabiliser ? C'est sans doute possible en tant que parent quand on est capable de donner des règles claires pour des raisons que l'enfant peut comprendre. C'est plus difficile sans doute quand on a soi-même eu une éducation autoritaire et que se confondent un peu l'abus de pouvoir et l'autorité. Entrer en analyse, en tout cas pour moi, a été le moyen de faire la part des choses entre ce qui était de ma responsabilité et de celle des autres. Ça a aussi eu un impact sur le sentiment de culpabilité. Mais je pense que quand il y a une confusion à ce niveau-là, la guidance parentale peut être aussi une aide précieuse. Voilà, je voulais avoir votre avis sur cette question. Merci.
Oui, je crois que vous avez bien compris la différence, pas toujours absolument évidente, entre autorité et autoritarisme. Et effectivement, les parents d'aujourd'hui se posent la question de, s'ils le souhaitent, bien entendu, de comment exercer l'autorité sans autoritarisme. Vous parlez de la guidance parentale. Oui, la guidance parentale peut être tout à fait bienvenue et efficace, mais sous ce terme de guidance parentale, il y a des choses totalement différentes. Autant je suis favorable, bien entendu, à pouvoir venir discuter avec un professionnel et discuter personnellement avec un professionnel des questions qui peuvent se poser concernant l'éducation, autant je suis plus sceptique sur les conseils généraux et même particuliers que l'on peut donner aux parents. Je crois que je suis même sûre que les conseils sont faits pour ne pas être suivis. Et donc, ça me paraît assez inutile de donner des conseils. En revanche, permettre à des parents de réfléchir sur l'éducation, c'est-à-dire de faire un retour en arrière sur leur propre éducation, qui a eu forcément des choses négatives et des choses positives, et de se demander comment eux peuvent faire avec les enfants qu'ils ont, parce que l'éducation, c'est pas de la théorie, ça s'applique à des êtres vivants. Il y a également des groupes de parents. J'en ai fait pendant très longtemps. Ça pourrait s'appeler aussi guidance parentale. Alors là, c'est intéressant parce que ce sont des parents entre eux, ayant des enfants d'âge très différents, en présence généralement d'un couple de thérapeutes. Et ce sont les parents entre eux qui échangent leurs expériences et disent bah oui, la situation que vous vivez, bah moi je l'ai connue et moi voilà comment j'ai fait. Hein, et donc il y a un échange autour des pratiques qui effectivement donne des idées aux uns et aux autres. Et ça n'a pas le côté très solennel de « je vous conseille de faire ceci ou cela » qui est généralement, encore une fois, pas suivi et souvent inécoutable.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Nous poursuivons l'écoute de vos questions.
Bonjour, je m'appelle Claire. Voilà, je ne peux m'empêcher de me sentir responsable et peut-être même un peu coupable d'une situation que je vis avec ma fille qui a 40 ans cette année et qui fait en ce moment une crise de la quarantaine couplée avec une crise d'adolescence qu'elle n'a pas vécue à l'époque des normales de l'adolescence. Son frère en ayant eu une crise d'adolescence qui avait pris toute la place dans notre famille. Notre fille a eu donc une vie après professionnelle, amoureuse, dans laquelle la chance n'a pas trop souri et où elle n'a pas trouvé sa place. Et il est compliqué pour elle aujourd'hui de se sentir bien dans cette situation. Pour ma part, j'ai construit ma vie amoureuse avec son père. J'ai aussi réussi ma vie professionnelle et fait des choix qui ont été heureux pour moi. Donc je ne peux pas m'empêcher, au fond de moi, de me dire qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai eu cette chance et qu'elle ne l'a pas eue, tout en essayant de me détacher, de soutenir le passage difficile que vit ma fille actuellement, de l'aimer et d'être bienveillante, c'est compliqué pour moi. de rester suffisamment détachée. Donc oui, je me sens quand même responsable et coupable. Voilà, c'est plus un témoignage qu'une question. Merci beaucoup pour vos émissions, merci pour tout ce qu'elles apportent et merci pour m'aider à parcourir nos inconscients, mon inconscient, pour le rendre plus présent dans ma conscience. Merci à tous.
Alors, merci également pour ce témoignage. Écoutez, j'ai l'impression, comme ça, en vous écoutant, que vous forcez un petit peu à vous sentir responsable et coupable. Vous dites que vous avez eu, de votre point de vue, davantage que votre fille, mais vous en êtes, de mon point de vue, ni responsable ni coupable. Et donc, j'ai l'impression que vous cherchez des raisons de vous sentir responsable et coupable. Écoutez, votre attitude qui est d'être plutôt bienveillante... D'abord, je ne savais pas ce que c'était que la crise de la quarantaine chez une femme. Vous me l'apprenez, il y a une crise de la quarantaine. Votre fille est en difficulté. Vous allez bien, donc vous allez être bienveillante et la soutenir. Je ne suis pas sûre que la culpabilité que vous ressentez va aider davantage. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes dans cette situation où la culpabilité, comme j'ai essayé de le décrire, a des aspects positifs. Là, elle est carrément inutile. Donc, voilà ce que j'avais envie de vous dire, de ce message que je trouve quand même assez émouvant et qui montre que on n'en a jamais fini avec ses enfants. Quand j'étais petite, ma grand-mère me disait « petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes ». Comme j'étais une petite fille, je riais doucement. Et l'âge venant, je me rends compte à quel point elle avait raison et votre témoignage m'en apporte une preuve supplémentaire.
Bonjour, je suis Sarah, j'ai 39 ans et je suis maman de 2 enfants en bas âge. Merci beaucoup pour cette émission, je l'écoute avec beaucoup d'intérêt. Alors, j'ai lu pas mal de choses sur l'éducation positive et j'ai écouté la plupart des émissions du podcast de Caroline Goldman. Concernant l'éducation positive ou bienveillante, il me semble que la critique qui revient sans cesse et selon laquelle ce mode d'éducation serait laxiste ne soit pas recevable. Pour moi, il s'agit plutôt d'une mauvaise interprétation des principes de ce mode d'éducation. Ce qui me gêne dans les préconisations de ce mode d'éducation, c'est la culpabilisation involontaire, je pense, des parents, parce que personne n'est infaillible et qu'il nous arrive à tous d'être impatients, de crier, de faire du chantage et de culpabiliser les enfants. C'est là, d'ailleurs, que l'écoute du podcast de Caroline Goldman me fait du bien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai hâte d'entendre votre réponse. À bientôt.
Bonjour Sarah. Alors, ce qui me plaît dans ce que vous racontez, c'est que vous parlez à la fois de l'éducation bienveillante et des critiques que peut faire Caroline Goldman, et que vous-même, vous critiquez et l'éducation bienveillante et Caroline Goldman. Et donc, je vous félicite de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'on vous raconte et d'essayer de faire effectivement comme vous pouvez avec vos 2 enfants en bas âge. Voilà, je crois que c'est votre témoignage est vraiment important parce que à la fois vous renseignez, bon, évidemment tout le monde est pour l'éducation dite bienveillante, hein, on n'a pas envie d'une éducation malveillante. Sur les principes, moi-même j'aurais pas mal de critiques, mais surtout j'apprécie que vous qui cherchez des conseils ou de l'information, vous en prenez, vous en laissez. Et c'est tant mieux, bravo. Alors, peut-être sur le sujet des enfants de 1 an. Pour avoir parcouru et écouté Caroline Goldman, premièrement, il me semble qu'il ne s'agit pas d'une punition. La question d'isoler l'enfant me paraît être une solution pour faire baisser une extrême tension. Voilà. Et effectivement, il arrive que des enfants de 1 an, c'est même tout à fait normal, cherchent à éprouver les limites au-delà desquelles ils pourraient ou non aller, et que, après leur avoir dit 3 fois que voilà, c'était la limite, s'ils commencent à pleurer, hurler, etc., et que le parent lui-même se met à monter au rideau, je pense que ça calme le jeu des 2 parties de se calmer. Il me semble que c'est un petit peu ce que préconise Caroline Goldman. Alors, au fond du fond, je suis assez surprise de voir que pour savoir si il faut mettre un enfant dans sa chambre une minute, à quel âge, etc., etc., on ait besoin d'études internationales qui nous disent ce qu'il faut faire. Ça me surprend un petit peu. Voilà. Alors, j'espère que les parents qui lisent ou ne lisent pas ces études internationales gardent un peu de bon sens, d'une part, et d'autre part, ne se culpabilisent pas trop s'ils n'ont pas fait exactement ce qu'il est préconisé de faire. Si les études permettaient aux parents de s'améliorer, depuis le temps que ces études existent, il devrait y avoir des parents parfaits. Eh bien, je n'en ai jamais rencontré, mais peut-être qu'ils ne viennent pas me consulter.
Oui, bonjour, merci pour cette émission qui permet d'explorer ce qu'on n'explore jamais, l'inconscient. Mon prénom, c'est Laurence, et la question que je voudrais poser, c'est peut-on véritablement se libérer de l'éducation reçue ? Merci, à bientôt.
Laurence, votre question... je pourrais la retourner, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se libérer de l'éducation reçue ? Il y a deux façons. Soit on reproduit l'éducation reçue, c'est ce qui s'est passé probablement pendant des siècles où la société évoluait très lentement et où les parents reproduisaient à l'identique l'éducation qu'ils avaient reçue et je suppose ne se posaient pas trop de questions, encore que. Et puis il y a des personnes qui prennent le contre-pied absolu de l'éducation qu'ils ont reçue. Alors moi j'ai l'idée que à partir de 7 ans, un enfant peut se poser des questions sur l'éducation qu'il reçoit et poser des questions. Et une fois devenu adulte, et en particulier lorsqu'on a soi-même des enfants, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de regarder au-dessus de son épaule, de se demander quelle éducation on a reçue, et d'en voir les aspects positifs et les aspects négatifs. Car il y a toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. À partir de là, on a toujours l'idée qu'on va faire mieux. On peut toujours avoir cette ambition, c'est pas toujours le cas. Et en analyse, on reçoit souvent des femmes qui disent je ne veux surtout pas ressembler à ma mère. Et moi, j'ai l'habitude de répondre, écoutez, vous avez la moitié des gènes de votre mère, ça va être très difficile de ne pas lui ressembler. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce qu'elle a de pire, mais ne pas vouloir lui ressembler, ça me paraît voué à l'échec. Voilà, donc, est-ce qu'on peut se libérer ? Oui, il faut non pas s'en libérer, mais avoir une position critique et dépasser, je crois, ensuite ces critiques. Il s'agit d'abord de critiquer, mais ensuite éventuellement de comprendre. Et le moment où on le comprend le mieux, c'est quand on a un enfant adolescent qui vous fait vivre ce que vous-même avez fait vivre à vos parents. Là, tout d'un coup, on comprend quelque chose et on se dit « Ah oui, ça n'a pas été facile ». Merci à vous pour vos questions et merci à l'équipe. Théo Delobader à la technique, Valentine Chedebois pour le choix du disque, Franck Olivard qui récolte vos questions et Audrey Ripouille à la réalisation. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Laurie Loffer. D'ici là, vous pouvez d'ores et déjà écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et surtout lui laisser vos messages. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 7 mai.